Chapitre 13 du retour des Noldor. On a raconté comment Fëanor et ses fils furent les premiers des exilés à parvenir en terre du milieu et comment ils débarquèrent dans la désolation du Lammoth, le Grand Écho, sur les extrêmes rivages de l'estuaire du Drengist. Et tandis même que les Noldor foulaient la grève, leurs cris furent repris par les collines et répercutés, de sorte qu'une grande clameur envahit toutes les côtes du Nord comme d'une multitude de voix tonitruantes. Et le bruit de l'incendie des navires à l'Osgar flotta sur les vents marins, telle une furieuse tempête, et tous ceux qui l'entendirent au loin en restèrent stupéfaits. Or, les flammes de ce brasier attirèrent non seulement l'attention de Fingolfin, que Fëanor avait abandonné en Alaman, mais aussi celle des orques et des guetteurs de Morgoth. Aucun conte ne rapporte ce que Morgoth se dit en son cœur lorsqu'il sut que Fëanor, son ennemi le plus implacable, arrivait de l'ouest à la tête d'une armée. Il se peut qu'il ne l'ait guère craint, n'ayant pas encore éprouvé les épées des Noldor, et il apparut bientôt qu'il espérait les rejeter dans la mer. Sous les froides étoiles d'avant le lever de la lune, l'armée de Fëanor remonta le long estuaire du Drengist qui trouait Ered Lomin, les collines de l'Écho, et pénétrait ainsi depuis les côtes dans le vaste pays de Ithlom. Et ils parvinrent enfin au long lac de Mithrim et établirent leur campement dans la région du même nom, sur sa rive septentrionale. Mais l'armée de Morgoth, alertée par le tumulte du Lammoth et la lueur des flammes à l'Osgar, franchit les cols d'Ered Wethrin, les montagnes de l'ombre, et assaillit Fëanor à l'improviste, avant que son camp fût bien établi ou mis en défense. Et là, sur les champs gris du Mithrim, fut livrée la deuxième bataille des guerres du Beleriand. On la nomme Dagor Nuin Giliath, la bataille sous les étoiles, car la lune n'était pas encore apparue, et de nombreux chants l'ont célébrée. Les Noldor, surpris par une force supérieure en nombre, n'en furent pas moins rapidement victorieux, car la lumière d'Aman ne s'était pas encore estompée dans leurs regards, et ils étaient forts et vifs, mortels dans leurs courroux, et leurs épées étaient longues et redoutables. Les orques fuirent devant eux, et ils furent boutés hors du Mithrim avec grand massacre et pourchassés au-delà des montagnes de l'ombre jusqu'à la grande plaine d'Ardgalen qui s'étend au nord du Dorthorion. Là, les armées de Morgoth qui étaient descendues au sud par le val du Sirion, avant d'assiéger Cildan au havre du Falas, se portèrent à leur secours et furent entraînées dans leurs ruines. Car informés de leur présence, Celigorm, fils de Fëanor, les assaillit avec un détachement de l'armée elfe, s'étant embusqué dans les collines près d'Ethel Sirion, et les refoula dans le marais de Selec. Très mauvaises furent donc les nouvelles qui parvinrent enfin à Angband. Et Morgoth en fut consterné. Cette bataille avait duré 10 jours, et de toutes les armées qu'il avait bâties pour la conquête du Beleriand, il ne retrouva qu'une poignée de feuilles mortes. Il avait pourtant matière à se réjouir, quoiqu'il fût encore un moment à l'ignorer, car Fëanor, dans son courroux contre l'ennemi, refusait de s'arrêter, pourchassant les débris des orques, et pensant ainsi se retrouver face à Morgoth lui-même. Et il riait aux éclats en maniant son épée, content d'avoir défié la colère des Valar et les malheurs de la route, croyant bientôt connaître son heure de vengeance. Il ne savait rien d'Angband, ni des formidables défenses que Morgoth avait si rapidement constituées. Mais en aurait-il su quelque chose, que cela n'eût rien fait pour l'arrêter, car il ne se dominait plus, consumé par la flamme de son propre courroux. Ainsi, il se retrouva très avancé sur le devant de son armée, et voyant cela, les serviteurs de Morgoth firent volte-face, et des balrogs sortirent d'Angband pour leur prêter main-forte. Là, sur les confins de Dor Daideloth, le pays de Morgoth, Fëanor se trouva encerclé avec une maigre compagnie. Longtemps il combattit, et sans perdre courage, bien qu'il fût tout enveloppé de feu, essuyant blessure sur blessure. Mais enfin il fut jeté à terre par Gothmog, seigneur des balrogs, dont Ectelion devait plus tard triompher à Gondolin. Il y fut resté, si ses fils n'étaient à cet instant arrivés en renfort, et les Balrogs le laissèrent et s'en retournèrent à Angband. Alors, ses fils le soulevèrent et le transportèrent vers le Mithrim. Mais comme ils approchaient d'Eith el-Sirion, sur le sentier qui grimpait jusqu'au col des montagnes, Fëanor les pria de s'arrêter, car ses blessures étaient mortelles, et il savait que son heure était venue. Embrassant de son dernier regard le pays autour des Eredwethrin, il contempla au loin les cimes du Thangorodrim, les plus hautes tours de la terre du milieu. Et avec la prescience d'un mourant, il sut qu'aucune force des Noldor ne les ferait jamais tomber. Mais il maudit trois fois le nom de Morgoth, et il imposa à ses fils de tenir leur serment et de venger leur père. Puis, il mourut. Mais il n'eut pas d'enterrement ni aucune tombe, car son esprit était si ardent que, lorsqu'il quitta sa dépouille, celle-ci tomba en cendres et partit comme en fumée. Et sa ressemblance n'est jamais reparue en Arda, pas plus que son esprit n'a quitté les halles de Mandos. Ainsi finit le plus puissant des Noldor, dont les exploits leur valut la plus grande renommée et aussi le plus grand malheur. Or, il vivait au Mithrim des elfes gris, des gens du Beleriand qui s'étaient aventurés au nord des montagnes, et les Noldor furent heureux de les rencontrer comme des parents égarés de longue date. Leur conversation fut toutefois malaisée au début, car au cours de leur longue séparation, les langues des Kalaquendi en Valinor et des Moriquendi en Beleriand s'étaient beaucoup éloignées. Par les elfes du Mithrim, les Noldor eurent vent de la puissance d'Elu Thingol, roi du Doriath, et de la ceinture d'enchantement autour de son royaume. Et la rumeur des exploits accomplis dans le nord se répandit au sud jusqu'à Menegroth, de même qu'au havre de Brithombar et d'Eglarest. Alors, tous les elfes du Beleriand furent remplis d'étonnement et d'espoir, saluant le retour inattendu de leurs puissants parents de l'ouest, alors même que la nécessité les pressait, et allant même jusqu'à croire au début qu'il s'agissait d'émissaires des Valar venus les délivrer. Mais à l'heure même où Fëanor trépassait, ses fils reçurent une ambassade de Morgoth, concédant la victoire et proposant des conditions et même la restitution d'un Silmaril. Lors Maedros le Grand, l'aîné des fils, persuada ses frères de feindre de traiter avec Morgoth et de rencontrer ses émissaires à l'endroit indiqué. Mais les intentions des Noldor étaient aussi peu loyales que les siennes. Aussi, chaque ambassade arriva-t-elle avec une force plus grande qu'il n'avait été convenu. Mais Morgoth envoya la plus nombreuse, et des Balrogs en étaient. Maedros fut pris en embuscade, et toute sa compagnie fut tuée. Mais lui-même fut pris vivant sur l'ordre de Morgoth et emmené à Angband. Lors, les frères de Maedros se retirèrent et fortifièrent un vaste campement au Ithlom. Mais Morgoth garda Maedros en otage et fit savoir qu'il ne serait relâché que si les Noldor renonçaient à leur guerre, soit en retournant dans l'ouest, soit en quittant le Beleriand pour le sud du monde, loin de ses terres. Mais les fils de Fëanor savaient que Morgoth les trahirait, qu'ils ne relâcheraient pas Maedros, quoi qu'ils décidassent de faire. De plus, ils étaient liés par leur serment et ne pouvaient pour aucun motif abandonner la guerre contre leur ennemi. Morgoth amena donc Maedros et le fit suspendre contre la paroi d'un précipice du Thangorodrim, rivé au rocher par une entrave d'acier au poignet de sa main droite. Or, au campement du Ithlom, on eut vent de la marche de Fingolfin et de ses suivants qui avaient franchi la glace aiguë. Et à ce moment-là, le monde entier s'émerveillait de la venue de la lune. Mais tandis que l'armée de Fingolfin s'avançait au Mithrim, le soleil se leva dans l'ouest, brillant de tous ses feux. Et Fingolfin déploya ses bannières bleues et argent et fit sonner ses cors, et des fleurs jaillirent sous ses pas. Et dès lors, les âges des étoiles étaient révolus. À l'avènement de la grande lumière, les serviteurs de Morgoth se réfugièrent à Angband, et Fingolfin passa les défenses de Dor Daideloth sans entrave aucune, pendant que ses ennemis étaient cachés sous terre. Lors, les elfes frappèrent aux portes d'Angband, et la sonnerie de leurs trompettes ébranla les tours du Thangorodrim. Et Maedros, dans son supplice, les entendit et cria à tue-tête, mais sa voix se perdit dans les échos de la pierre. Mais Fingolfin, qui n'avait pas le tempérament de Fëanor et se méfiait des ruses de Morgoth, quitta Dor Daideloth et se retira vers le Mithrim, car on l'avait informé qu'il y trouverait les fils de Fëanor. En outre, il souhaitait bénéficier de la protection des montagnes de l'ombre pendant que les siens se reposeraient et retrouveraient leurs forces, car il avait pu se rendre compte de la puissance d'Angband et il ne comptait pas qu'elle tomberait au seul son des trompettes. C'est ainsi que, enfin arrivé au Ithlum, il établit un premier campement près des rives septentrionales du lac Mithrim. Les suivants de Fingolfin n'avaient point d'amitié pour la maison de Fëanor, car leur tourment avait été grand lors du passage de la glace, et Fingolfin tenait les fils pour complices de leur père. Un conflit menaçait d'éclater entre les armées. Mais les gens de Fingolfin et de Finrod, fils de Finalfin, si grande qu'avait été leur perte en cours de route, demeuraient plus nombreux que les suivants de Fëanor. Et ceux-ci à présent se retirèrent, transportant leur campement sur la rive méridionale, et les eaux du lac les séparèrent. Les gens de Fëanor furent d'ailleurs nombreux à regretter l'incendie de l'Osgard, ébahis par le courage de ceux qu'ils avaient abandonnés par-delà la glace du Nord. Et ils eussent donné la bienvenue à leurs amis trahis, mais ne l'osèrent pas, honteux. Ainsi, à cause de la malédiction qui pesait sur eux, les Noldor n'accomplirent rien, tandis que Morgoth hésitait, et que la crainte de la lumière était nouvelle et encore très vive chez les orques. Mais Morgoth émergea de sa réflexion, et constatant la désunion de ses adversaires, il rit. Dans les fosses d'Angband, il fit produire d'immenses vapeurs que crachaient les sommets fumants des montagnes de fer, et on pouvait les voir au loin au Mithrim, entachant les clairs horizons des premiers matins du monde. Un vent se leva à l'est et charria les nuées au-dessus du Ithlum, assombrissant le jeune soleil. Et elles plongèrent dans les champs et se levèrent dans les combes, et on les vit s'étendre sur les eaux du Mithrim, sinistres et délétères. Alors le vaillant Fingon, fils de Fingolfin, résolut d'apaiser la querelle entre les Noldor avant que leur ennemi fût prêt pour la guerre, car le tonnerre des forges souterraines de Morgoth faisait trembler le sol des terres du Nord. Longtemps auparavant, dans la félicité du Valinor, avant que Morgoth fût délivré de ses chaînes et que le mensonge les divisa, Fingon avait été un proche ami de Maedhros. Et s'il ne savait pas encore que Maedhros s'était souvenu de lui lors de l'incendie des navires, le souvenir de leur vieille amitié lui navrait le cœur tout de même. C'est pourquoi il osa un exploit justement célébré parmi les hauts faits des princes des Noldor. Seul, sans le conseil de quiconque, il partit à la recherche de Maedhros. Et grâce aux ténèbres mêmes que Morgoth avait causées, il parvint sans être vu au domaine de ses adversaires. S'étant hissé à bonne hauteur sur les épaulements du Thangolodrim, il porta un regard affligé sur la désolation du pays. Mais il ne trouva ni passage ni fissure pour l'admettre dans la forteresse de Morgoth. Puis, par bravade contre les orques encore terrés dans leur sombre souterrain, il saisit sa harpe et chanta un chant du Valinor composé autrefois par les Noldor avant que naquît la discorde entre les fils de Finwë. Et sa voix résonna dans les combes éplorées qui jusque-là n'avaient rien entendu que des cris d'épouvante et d'affliction. Fingon trouva ainsi ce qu'il cherchait. Car soudain au-dessus de lui, faible et lointain, son chant fut repris, et une voix l'appelait en réponse. C'était Maedhros qui chantait au milieu des tourments. Or, Fingon grimpa au pied du précipice où était suspendu son parent, mais ne put aller plus loin. Et il pleura lorsqu'il vit le cruel dispositif de Morgoth. Ainsi Maedhros, dans les affres de la douleur et sans espoir d'en réchapper, supplia-t-il Fingon de lui donner la mort. Et Fingon encocha une flèche et banda son arc. Et ne voyant d'autre espoir, il implora Manwë, criant « Ô roi, à qui tous les oiseaux sont chers, guidez maintenant ce trait ailé et prenez pitié des Noldor dans leur détresse. » Sa prière fut bientôt exaucée, car Manwë, à qui tous les oiseaux sont chers, eux qui lui apportent sur le Taniquetil des nouvelles de la terre du milieu, y avait envoyé la race des aigles avec l'ordre de nicher dans les escarpements du nord afin de surveiller Morgoth. Car Manwë prenait encore pitié des elfes exilés. Ainsi donc, les aigles rapportèrent bien des événements de ce temps-là aux oreilles chagrinées de Manwë. Or, tandis que Fingon bandait son arc, du haut des airs descendit Thorondor, roi des aigles, le plus majestueux des oiseaux jamais vus, dont les ailes déployées avaient 30 toises d'envergure. Et il retint la main de Fingon et le souleva, puis il le porta à la paroi rocheuse où Maedros était suspendu. Mais Fingon ne put défaire le lien des forges infernales à son poignet, ni le rompre, ni le tirer de la pierre. À l'agonie, Maedros le supplia à nouveau de le tuer. Mais Fingon lui trancha la main au-dessus du poignet, et Thorondor les ramena tous deux au Mithrim. Là-bas, Maedros guérit avec le temps, car la flamme de la vie brûlait en lui avec ardeur, et sa force était celle de l'ancien monde, comme pour tous ceux qui grandirent en Valinor. Son corps se remit des affres du tourment et retrouva toute sa santé. Mais l'ombre de la douleur ne quitta pas son cœur, et son épée devint bientôt plus redoutable de la gauche qu'elle ne l'avait été de la droite. Cet exploit de Fingon lui valut une grande renommée, et tous les Noldor firent son éloge. Et la haine entre les maisons de Fingolfin et de Fëanor fut apaisée. Car Maedros demanda pardon pour la désertion en Araman, et il renonça à revendiquer la suzeraineté sur tous les Noldor, disant à Fingolfin « Quand bien même aucun grief ne serait entre nous, Seigneur, la royauté vous reviendrait de droit, à vous qui êtes l'aîné de la maison de Finwë, et non le moins sage. » Mais en leur cœur, tous ses frères n'étaient pas du même avis. Ainsi, comme Mandos l'avait prédit, la maison de Fëanor devint celle des dépossédés, car la suzeraineté passa non pas à elle, mais à la maison de Fingolfin, tant en Elendé qu'en Beleriand. Et à cela s'ajoutait la perte des Silmaril. Mais les Noldor, étant de nouveau unis, firent surveiller les frontières du Dor Daedaloth, et ils mirent le siège à Angband à l'ouest, au sud et à l'est. Et ils dépêchèrent des messagers aux quatre coins du Beleriand pour en explorer toutes les contrées et traiter avec leurs habitants. Or, le roi Fingol n'accueillit pas sans réserve l'arrivée en force de tant de princes venus de l'ouest, avides de nouveaux royaumes. Et il refusa d'ouvrir le sien ou de lever sa ceinture d'enchantement, car, fort de la sagesse de Méliane, il doutait que Morgoth pût être contenu indéfiniment. De tous les princes des Noldor, seuls ceux de la maison de Finarfin furent admis à pénétrer dans les limites du Doriath, du fait de leur proche parenté avec le roi Fingol lui-même, car leur mère était Eärwen d'Alqualondë, la fille de Loé. Angrod, fils de Finarfin, fut le premier des exilés à se rendre à Menegroth à titre de messager de son frère Finrod. Et il s'entretint longuement avec le roi et lui rendit compte des exploits des Noldor dans le nord, du nombre de leurs armées et de l'ordonnance de leurs forces. Mais comme il était droit et avait le cœur sage, et croyait tous les griefs désormais pardonnés, il ne dit mot du massacre fratricide, ni des circonstances de l'exil des Noldor et du serment de Fëanor. Le roi Fingol écouta attentivement les paroles d'Angrod, et avant son départ, il lui dit « Ainsi parleras-tu pour moi à ceux qui t'ont envoyé. Au Ithlum, les Noldor ont permission de rester, et dans les hautes terres du Dorthonion, et dans les étendues sauvages et désertes à l'est du Doriath. Mais ailleurs, il y a bon nombre de mes gens, et je ne voudrais les voir contraints dans leur liberté et encore moins chassés de leur demeure. Surveillez donc votre conduite, vous autres princes de l'Ouest, car je suis le seigneur du Beleriand, et tous ceux qui souhaitent y vivre devront m'entendre. Nul ne séjournera au Doriath, hormis ceux que je solliciterai en hôte ou qui auront grand besoin de mon audience. » Or, les seigneurs des Noldor tinrent conseil au Mithrim, et Angrod, arrivant du Doriath, y apporta le message du roi Fingol. Les Noldor trouvèrent son accueil plutôt froid, et les fils de Fëanor se courroucèrent d'entendre de telles paroles. Mais Maedros éclata de rire, disant « Et roi qui peut défendre son bien, sans quoi son titre est un vain mot. Fingol prétend nous accorder des terres où son pouvoir n'a pas cours, et son royaume, aujourd'hui, serait réduit au seul Doriath, n'était la venue des Noldor. Qu'il y règne donc, et qu'il se réjouisse d'avoir les fils de Finwë pour voisins, et non les orques de Morgoth que nous avons trouvés. En dehors, il en ira selon notre gré. » Mais Calantir, qui n'aimait guère les fils de Finalfin, et qui était le plus implacable des frères et le plus irascible, s'écria « Plus encore,
Ne laissons pas les fils de Finalfin colporter leurs histoires à cet elfe sombre dans ses cavernes. Qui donc en a fait nos ambassadeurs auprès de lui? Et si les voilà parvenus en Beleriand, qu'ils n'oublient pas si promptement que leur père est un seigneur des Noldor, bien que leur mère soit d'un autre lignage.
Lors, Angrod se mit en colère et quitta le conseil. Maedros, en vérité, réprimanda Caranthir. Mais la plupart des Noldor, d'un côté comme de l'autre, se troublèrent en entendant ces mots, redoutant l'esprit véhément des fils de Fëanor, qui semblaient devoir se déchaîner toujours en paroles ou en actions violentes. Mais Maedros retint ses frères, et tous se retirèrent du conseil. Et peu après, ils quittèrent le Mithrim pour aller vers l'est, au-delà de Laros, dans le vaste pays entourant la colline de Himring. Cette région se nomma dès lors la Marche de Maedros, car elle n'avait guère de défense au nord, colline ou rivière, pour la protéger d'un assaut d'Angband. Là, Maedros et ses frères montèrent la garde, ralliant tous ceux qui voulaient bien rejoindre leur rang, et ils eurent rarement affaire à leurs semblables plus à l'ouest, sinon en cas de nécessité. Du reste, c'est Maedros lui-même qui le voulut ainsi, dit-on, afin de réduire les chances de conflit, et parce qu'il comptait bien prendre sur lui-même le péril le plus grave en s'exposant aux attaques. Il demeurait pour sa part en bon terme avec les maisons de Fingolfin et de Finalfin, et se rendait parfois auprès d'eux afin de tenir conseil commun. Il n'en était pas moins tenu par son serment, qui, pour l'instant, était néanmoins en sommeil. Or, Caranthir et les siens occupaient les terres de l'extrême est, au-delà des sources du Gellion, aux environs du lac Elevorn, sous le mont Rerir et quelque peu au sud. Et ils gravirent les hauteurs des Ered Luin et contemplèrent l'est avec émerveillement, tant la terre du milieu leur paraissait immense et sauvage. Et c'est alors que les gens de Caranthir rencontrèrent les nains, qui, après l'assaut de Morgoth et la venue des Noldor, avaient cessé leur commerce avec le Beleriand. Mais bien que les deux peuples fussent épris d'habileté et avides d'apprendre, ils ne s'aimaient guère, car les nains étaient des gens secrets et rancuniers, et Caranthir, qui avait une manière hautaine, cachait à peine son mépris pour l'aspect disgracieux des Naogrim, et les siens suivaient son exemple. Néanmoins, comme ils craignaient Morgoth et le haïssaient, les deux peuples nouèrent une alliance, et ils en tirèrent grand profit. Car les Naogrim apprirent en ce temps-là maints artifices secrets, si bien que les maçons et forgerons de Nogrod et de Belégost gagnèrent en notoriété chez les nains. Et lorsqu'ils reprirent leur voyage en Beleriand, tout le commerce de leurs mines passa d'abord entre les mains de Caranthir, qui s'attira ainsi de grandes richesses. Quand 20 années du soleil eurent passé, Fingolfin, roi des Noldor, donna une grande fête, et elle se tint au printemps près des fontaines d'Ivrin, où naissaient les eaux vives de la rivière Narog, car le pays y était beau et verdoyant, au pied des montagnes de l'ombre, faisant rempart contre le nord. La joie de cet événement resta longtemps dans les mémoires lors des jours malheureux à venir. Et on l'appela Mereth Aberthad, la fête des retrouvailles. S'y rendirent de nombreux chefs et suivants de Fingolfin et de Finrod, et aussi de Maedros et de Maglor, fils de Fëanor, avec des guerriers de la marche orientale. Et il vint de grandes cohortes d'elfes gris, errant des forêts du Beleriand ou gens des Havres, avec leur seigneur Círdan. Il vint même des elfes verts de l'Ossiriand, le pays des sept rivières, sous les murailles des lointaines montagnes bleues. Mais du Doriath, il ne vint que 2 messagers, Mablung et Daeron, apportant les salutations du roi. À Mereth Aderthad, de nombreux conseils furent pris de bonne foi, et l'on jura des serments d'alliance et d'amitié. Et il est dit que lors de cette fête, la langue des elfes gris fut la plus employée de toutes, même par les Noldor, car ils apprirent très vite la langue du Beleriand, tandis que les Sindar mirent longtemps à maîtriser celle du Valinor. Les cœurs des Noldor étaient exaltés et remplis d'espoir, et pour beaucoup d'entre eux, il semblait que les paroles de Fëanor se vérifiaient, quand naguère il les exhortait à chercher la liberté et de beaux royaumes en terre du milieu. Et de fait, il y eut alors de longues années de paix, tandis que leurs épées gardaient le Beleriand de la ruine de Morgoth, et que la puissance de celui-ci restait contenue derrière ses portes. On connut la joie en ce temps-là, sous le nouveau soleil et la nouvelle lune, et toutes les terres se réjouirent. Mais l'ombre continuait de menacer dans le nord. Et lorsque 30 autres années eurent passé, Turgon, fils de Fingolfin, quitta le Nevrast, où il s'était établi, et alla trouver son ami Finrod sur l'île de Tol Sirion. Et, là, pour un temps des montagnes du nord, ils descendirent vers le sud en longeant le fleuve. Et un soir qu'ils voyageaient, la nuit les surprit au-delà des mares du crépuscule, en bordure du Sirion, et ils dormirent sur ses berges sous les étoiles de l'été. Mais Ulmo remonta le fleuve et les plongea dans un profond sommeil fait de rêves pesants. Et le trouble que ceux-ci leur inspirèrent ne les quitta pas à leur réveil. Mais aucun des deux n'en dit mot à l'autre, car ils n'en gardaient qu'un vague souvenir, et chacun se figurait qu'Ulmo n'avait envoyé un message qu'à lui seul. Mais cette inquiétude ne les quitta plus, les faisant redouter l'avenir, et ils prirent coutume de s'aventurer seuls par les contrées inexplorées, sillonnant les terres en quête de places fortes et secrètes, car chacun sentait la nécessité de se prémunir contre un jour funeste et d'établir une retraite sûre au cas où Morgoth surgirait des portes d'Angband pour renverser les armées du Nord. Or, il arriva que Finrod et sa sœur Galadriel séjournaient au Doriath sur l'invitation de leurs parents Thingol. Et Finrod put alors admirer la puissance et la majesté de Menegroth, ses trésors, ses armureries, ses salles de pierre aux mains piliers. Et il lui prit le désir de construire de vastes halles derrière des portes gardées nuit et jour, en quelques lieux secrets, sous la face des collines. Il ouvrit donc son cœur à Thingol, lui racontant ses rêves. Et Thingol lui parla de la profonde gorge de la rivière Narog et des cavernes sous le haut Pharoth, dans la berge escarpée à l'ouest de ce cours d'eau. Et à son départ, il lui fournit des guides pour le conduire à cet endroit que peu de monde connaissait encore. Finrod gagna donc les cavernes du Narog et commença d'y façonner des salles creuses et des armureries semblables au palais de Menegroth. Et cette place forte s'appelait Nargothrond. Pour l'aider dans ce grand ouvrage, Finrod fit appel aux nains des montagnes bleues, et ils furent bien récompensés, car Finrod avait apporté de Tirion plus de trésors qu'aucun autre des princes des Noldor. Et c'est à ce moment que fut confectionné pour lui le Naoglamir, le collier des nains, la plus célèbre de leurs œuvres aux jours anciens. Il s'agissait d'un collier d'or où étaient serties d'innombrables pierres du Valinor. Mais il recelait un pouvoir, si bien qu'il reposait sur les épaules aussi légèrement qu'un fil de lin, et il parait tout un chacun avec la même grâce et la même beauté. Là, à Nargothrond, s'établit Finrod avec beaucoup d'autres gens de son peuple, et on l'appela dans la langue des nains Felagund, le tailleur de cavernes. Et il porta ce nom jusqu'à son dernier jour. Mais Finrod Felagund n'était pas le premier à occuper les grottes au bord de la rivière Narog. Galadriel, sa sœur, ne le suivit pas à Nargothrond, car au Doriath vivait Celeborn, un parent de Thingol, et ces deux-là s'aimaient d'un grand amour. Galadriel demeura donc dans le royaume caché, et resta auprès de Méliane, dont elle tira un grand savoir et beaucoup de sagesse à propos de la terre du milieu. Mais Turgon se souvenait de la cité sur la colline, Tirion la belle, sa tour et son arbre, et il ne trouva pas ce qu'il cherchait, mais rentra au Nevrast où il siégea en paix à Vinyamar, près des rivages de la mer. Au cours de l'année suivante, Ulmo lui-même lui apparut, le priant de retourner seul dans le Val du Sirion, ce qu'il fit. Et guidé par Ulmo, il découvrit le val caché de Tumladen, dans les montagnes encerclantes, au milieu duquel se dressait une éminence rocheuse. Il se garda pour l'instant d'en parler à quiconque et s'enfuit de nouveau au Nevrast, où il commença de former, dans le secret de ses pensées, le plan d'une cité à l'image de Tirion sur Tuna, que regrettait son cœur d'exilé. Or, Morgoth, croyant le récit de ces espions selon lesquels les seigneurs d'Enoldor erraient çà et là sans penser à la guerre, voulut faire l'épreuve de la force et de la vigilance de ses ennemis. Une fois de plus, sans avertissement, son pouvoir se mit en branle, et soudain la terre trembla dans le nord, le feu surgit de ses fissures, et les montagnes de fer vomirent des flammes. Et des orques se déversèrent sur toute la plaine d'Ardgalen. De là, ils franchirent la passe du Sirion à l'ouest, et firent irruption dans le pays de Maglor à l'est par la brèche entre les collines de Maedros et les avant-coureurs des montagnes bleues. Mais Fingolfin et Maedros ne dormaient point, et tandis que d'autres pourchassaient les quelques bandes d'orques qui s'étaient introduites en Beleriand, semant la dévastation, eux s'abattirent sur le gros de l'armée et la prirent en étau comme elle assaillait le Dorthonion. Et ils triomphèrent des serviteurs de Morgoth et les poursuivirent à travers Ardgalen, et tous furent complètement anéantis jusqu'au dernier en vue des portes d'Angband. Ce fut la troisième grande bataille des guerres du Beleriand, et on l'appela Dagor Aglareb, la glorieuse bataille. Ce fut une victoire, mais aussi un avertissement, et les princes des Noldor en tinrent compte. Ils resserrèrent désormais leur blocus, renforçant leur surveillance et ordonnant leurs effectifs de manière à tenir le siège d'Angband, lequel dura bien près de 400 années du soleil. Après Dagor Aglareb, il fallut longtemps pour qu'un serviteur de Morgoth osât s'aventurer hors de ses portes, tant la crainte des seigneurs des Noldor était vive. Et Fingolfin se targua de ce que Morgoth ne pourrait plus jamais enfoncer le blocus des Eldar, ni les assaillir à l'improviste, à moins d'une trahison dans leur rang. Les Noldor ne pouvaient toutefois prendre Angband ni recouvrer les Silmaril, et tout le temps que dura le siège, il n'y eut jamais de véritable trêve, car Morgoth inventait de nouvelles abominations qu'il lâchait de temps à autre afin d'éprouver ses adversaires. Le domaine de Morgoth ne pouvait non plus être parfaitement encerclé, car les montagnes de fer, grandes murailles recourbées devant laquelle se projetaient les tours du Thangorodrim, le défendaient de part et d'autre et restaient infranchissables pour les Noldor, car recouvertes de neige et de glace. Ainsi, Morgoth n'avait-il aucun ennemi sur ses arrières au nord, et ses espions s'aventuraient parfois de côté et parvenaient en Beleriand par des chemins détournés. Et cherchant plus que tout à semer la peur et la division parmi les Eldar, il donna ordre aux orques de les prendre vivants s'ils en trouvaient et de les emmener pieds et poings liés à Angband. Et la terreur de son regard suscitait en eux une telle peur que certains n'eurent plus besoin de chaînes, allant toujours dans la crainte de leur maître, répondant à sa volonté en tout lieu et en toutes circonstances. Morgoth en sut ainsi beaucoup plus long sur ce qui s'était passé depuis la rébellion de Fëanor, et il se réjouit d'y trouver le germe de nombreuses dissensions chez ses adversaires. Quand près de 100 années se furent écoulées depuis la Dagor Aglareb, Morgoth résolut de prendre Fingolfin par surprise, car il savait la vigilance de Maedhros, et il envoya une armée dans la blancheur du nord, et elle prit bientôt à l'ouest, puis au sud, et descendit la côte jusqu'à l'estuaire du Drengist par le chemin qu'avait emprunté Fingolfin depuis la glace aiguë. Elle cherchait ainsi à entrer au royaume de Ithlum par l'ouest, mais sa présence fut remarquée à temps, et Fingon l'assaillit dans les collines à l'entrée de l'estuaire, et la plupart des orques furent précipités dans la mer. On ne rangea pas cet affrontement parmi les grandes batailles, car les orques n'étaient pas nombreux, et une partie seulement des gens du Ithlum y combattit. Mais la paix régna alors pendant maintes années, et Angband ne fit aucune campagne ouverte, car Morgoth avait compris que les orques seuls ne pouvaient rien contre les Noldor. Et il chercha en son cœur de nouveaux conseils. Après 100 années encore, Glaurung, le premier des Uruloki, les dragues de feu venus du nord, surgit des portes d'Angband à la faveur de la nuit. Il était jeune encore, et à peine à mi-croissance, car les dragons ont la vie longue, quoique lente. Mais les elfes atterrés fuirent à son approche et se réfugièrent dans les Eredwethrin et au Dorthonion, et il souilla les champs d'Ardgalen. Lors, Fingon, prince du Ithlum, fondit sur lui avec ses archers et le cerna dans un anneau de prestes cavaliers. Et Glaurung ne put résister à leurs traits, sa cuirasse n'étant encore parfaite, et il se hâta de rentrer à Angband, dont il ne sortit plus avant de nombreuses années. Fingon fut couvert d'éloges, et les Noldor se réjouirent, car peu d'entre eux devinaient l'importance de cette nouvelle menace. Mais Morgoth fut mécontent, car Glaurung s'était révélé trop tôt, et sa défaite entraîna la longue paix, qui dura près de 2 siècles. On ne vit pendant tout ce temps que des échauffourées sur les marches, et tout le Beleriand s'enrichit et prospéra. Derrière leurs armées, faisant sentinelle contre le nord, les Noldor bâtirent leurs habitations et leurs tours, et ils firent alors beaucoup de beaux objets, ainsi que des poèmes, des chroniques et des livres de tradition. Dans bien des régions, Noldor et Sindar se fondirent en un et unique peuple, usant d'une seule et même langue, à ceci près que les Noldor restaient les plus puissants, de corps comme d'esprit. Ils étaient les meilleurs guerriers et les plus grands sages, construisaient avec la pierre et préféraient les terres vallonnées et les grands espaces. Mais les Sindar avaient les plus belles voix, et ils s'entendaient davantage en musique, à la seule exception de Maglor, fils de Fëanor, et ils aimaient les bois et les berges des rivières. Et ils s'en trouvaient parmi les elfes gris, qui erraient encore sans feu ni lieu à travers le pays, et ils chantaient en marchant.